Les 20 et 27 juin prochains, les Français inscrits sur les listes électorales sont invités à se rendre aux urnes pour non pas une, mais deux élections, les départementales et les régionales. Pour parler de ces scrutins et de leurs enjeux, nous recevons aujourd'hui sur Radio Ondaine, le 90.9 FM et les www.radio-ondaine.fr, Stéphane Cadiou, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Monsieur Cadiou, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc effectivement, on va voter à la fin de ce mois de juin, deux élections. Ce n'est pas une première, hein. On vote souvent pour deux scrutins. Et ici, on va parler de conseil départemental, conseil régional, élection départementale, élection régionale. Je vous laisse commencer peut-être par les départementales. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'on va voter?
Alors, un conseil départemental, qui est la nouvelle appellation de ce que l'on appelait auparavant les conseils généraux, c'est une vieille institution de la Révolution française qui est assez connue, qui est donc très ancienne, en tout cas bien plus que les conseils régionaux, et qui est relativement identifiée du point de vue juridique par le fait que c'est l'instance qui s'occupe a priori des politiques sociales en France, c'est-à-dire qui s'occupe des aides sociales à l'enfance, des aides sociales aux personnes âgées, par exemple beaucoup de bénéficiaires par exemple de l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. C'est une institution qui s'occupe aussi du RSA, par exemple. C'est aussi une institution qui s'occupe du handicap. Donc c'est une institution qui est spécialisée sur, on va dire, une fonction de solidarité et de fonction surtout d'aide aux personnes. Voilà. Et puis il y a aussi un volet solidarité à l'égard des petites communes, d'aide notamment aux communes rurales ou périurbaines qui ont besoin de soutien, d'ingénierie pour les aider dans des projets de développement local. Voilà. Donc ça, c'est des grandes missions. Bien entendu, il y a bien d'autres compétences qui sont exercées par ces institutions, mais on va dire que les principales, et notamment financièrement, les principales, celles qui occupent, qui prennent le plus de poids dans le budget d'un conseil départemental, ce sont avant tout les politiques sociales, et ce qui d'ailleurs donne lieu à des débats, à des réflexions, car ce sont des politiques sur lesquelles les départements ont assez peu de marge de manœuvre, puisqu'elles allouent des prestations à des personnes handicapées, des prestations des bénéficiaires du RSA, etc., des bénéficiaires de l'APA, de l'allocation personnalisée à l'autonomie, sans que pour autant les critères d'attribution soient fixés département par département. Et donc, bien souvent, on considère que les départements sont des prestataires, ou en tout cas peuvent avoir tendance à être des prestataires, puisque les dépenses sociales pèsent à hauteur de plus de 50% du budget des conseils départementaux. Donc, ce qui est quand même relativement énorme. Ça leur permet d'être bien identifiés, mais en même temps de peser très lourdement sur leur budget avec des marges de manœuvre du même coup relativement limitées.
Passons cette fois-ci aux conseils régionaux. Qu'est-ce que c'est, avant de revenir aux conseils départementaux et la façon dont on va voter, un conseil régional, qu'est-ce que c'est? Que fait une région?
Alors les régions sont des institutions peut-être un peu moins connues et pour cause puisqu'elles sont plus récentes. Elles émergent de manière administrative dans les années 70, mais c'est au moment de la décentralisation au début des années 80 qu'elles prennent la forme de collectivités territoriales pour lesquelles les citoyens vont être appelés à voter, à désigner un conseil régional. Ces institutions, elles exercent des compétences qui ne sont pas nécessairement celles dont on parle le plus lors des campagnes électorales. J'ai bien peur que ce soit la même chose pour la campagne électorale qui se dessine, puisque les régions, elles s'occupent d'abord, en tout cas ce qui prend le plus de poids dans leur budget, c'est la formation professionnelle et l'apprentissage, les transports, l'enseignement, voilà. Ce sont les gros postes qui pèsent le plus. Hein. Ces trois postes pèsent à eux trois très largement au-dessus des 50% du budget d'une collectivité territoriale. Mais par exemple, une région ne traite pas, n'a pas la compétence en matière de sécurité, alors que ces derniers jours, l'actualité nous a montré que des prétendants aux élections régionales parlent beaucoup de ce sujet sans que le conseil régional n'ait cette compétence pour autant. Les conseils régionaux, ils sont identifiés depuis des années comme ce qu'on appelle des chefs de file. C'est-à-dire, ils ont une vocation à un petit peu piloter l'action économique en matière régionale. Et de plus en plus, l'une des compétences qui monte de plus en plus, c'est que la région a vocation d'être un chef de file aussi en matière d'environnement, en matière de transition écologique. Mais ce qui fait le propre des régions, et en partie cela s'explique par le fait que c'est une collectivité nouvelle, c'est que c'est une collectivité qui travaille avec les autres collectivités. bon nombre des politiques menées par les régions s'emboîtent, s'imbriquent avec les politiques qui sont menées soit par l'État d'un côté, soit par les départements ou les communes. Donc c'est une collectivité qui bien souvent intervient avec d'autres, quoi. Ce qui peut compliquer d'ailleurs les marges de manœuvre, ce qui peut limiter les marges de manœuvre d'un conseil régional et en tout cas pousser un conseil régional à entretenir des relations, à mener des négociations avec toute une série de partenaires pour pouvoir mener des actions.
On va basculer des départements à la région et on revient aux conseils départementaux. On voit des listes de candidats par binôme avec une forme de parité obligatoire. Pourquoi ?
Alors, effectivement, l'une des grandes spécificités des élections départementales, c'est que ce sont des élections où on vote pour des candidats, des personnes, et non pas pour une liste, comme pour un conseil régional. On vote pour des personnes et on vote aujourd'hui pour des binômes par un simple souci réglementaire, c'est afin de respecter l'obligation de parité. Puisque en votant sur des personnes, on s'était rendu compte que les conseils départementaux étaient le mauvais élève en matière de respect de la parité, puisqu'il est beaucoup plus difficile d'appliquer le principe de la parité dès lors que on vote dans un canton pour une personne. Et donc la petite astuce que l'on a trouvée, c'est que dans chaque canton, dans chaque circonscription, on va voter pour un binôme, un homme et une femme, ce qui permet de respecter le critère de la parité. Et ensuite, tous les élus des différentes circonscriptions iront siéger dans le conseil départemental qui ira désigner lors de la première séance le président du conseil départemental.
Alors c'est le président, la présidente, on va scinder les binômes à ce moment-là.
Oui. Il y aura un homme, une femme qui sera élu dans chacune des territoires, des circonscriptions, quoi. Mais c'est donc dans un souci de respect de la parité. En France, la parité a été introduite dans les collectivités territoriales et on l'a d'abord introduite dans les collectivités où on votait par liste et notamment dans les conseils régionaux, justement. Donc ça fait une transition. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire appliquer la parité dans des élections comme le conseil régional où on vote pour une liste de candidats. Tout simplement parce que sur une liste, on peut établir le principe d'un homme, une femme ou une femme, un homme, etc. Et que on fait une liste, ce qu'on appelle shabadabada, c'est-à-dire on inverse homme, femme pour chaque position. Et donc toute la difficulté, c'était de trouver une solution pour ces élections départementales où on votait dans un canton qui était lié à un conseiller général. Il était extrêmement difficile de faire appliquer ce principe de parité. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'établir des binômes.
Alors, restons sur ces départementales. Ces binômes vont être élus et ensuite, eux, ils vont élire un président du département.
Voilà, ça c'est le mode de fonctionnement de toute collectivité. C'est-à-dire qu'on vote et les élus, lors de la première séance, se réunissent et désignent le président départemental. Donc les électeurs n'ont pas vocation à désigner directement le président du conseil départemental, mais ils votent pour des élus qui ont siégé et qui, lors de la première séance, désigneront le président et son exécutif, c'est-à-dire le président et les vice-présidents en charge des différentes délégations, des différents domaines de compétences des politiques menées par le département.
Alors ici, aucune information est donnée au préalable officiellement sur le candidat, de la couleur des élus, etc.
Oui et non, c'est-à-dire que officiellement vous votez pour des élus dans une circonscription, dans un canton, mais bien entendu chaque force politique annonce à l'avance en quelque sorte quel sera le futur président, qui est souvent la personnalité la plus connue à l'intérieur de son propre camp et qui peut donc, permettez-moi l'expression, booster en quelque sorte les résultats ou les voix de chacun des binômes de son camp dans les différents cantons. Donc souvent, de fait, on connaît celui qui sera, s'il y a telle ou telle majorité, on connaît de fait qui sera le futur président, quoi. Qui est souvent la personnalité la plus connue de son camp. Alors l'élection pour un conseil régional est quelque peu différente, puisque cette fois le vote se fait sur la base d'une liste. Alors c'est un petit, le mode de scrutin est un petit peu complexe, mais grosso modo il y a une liste régionale qui, dans un souci d'équité, contient des membres de chacun des départements pour que aucun département ne soit lésé. Et donc, on est cette fois sur une liste qui, bien souvent, une liste correspond à un parti politique ou à une coalition de partis politiques. Et jusqu'à une date récente, on votait, enfin, les premières élections au conseil régional se faisaient sur le mode de scrutin proportionnel, c'est-à-dire selon le pourcentage de voix que vous réunissiez, eh bien, vous aviez à peu grosso modo le même pourcentage de siège, ce qui a conduit à une forme d'instabilité ou d'incapacité à faire émerger des majorités. Et donc, on a introduit une forme de compromis, c'est-à-dire qu'on vote par liste, mais la liste qui va arriver en tête bénéficiera de ce qu'on appelle une prime majorité, c'est-à-dire qu'elle sera nécessairement majoritaire en siège et elle pourra ainsi avoir une majorité relativement stable. Et là encore, lors du premier conseil, on élira le président du conseil régional qui bénéficiera d'une solide majorité.
Alors vous parliez tout à l'heure de personnalités reconnues, connues pour le département, mais dans un souci local. Et quand l'on parle des régionales, on voit des personnalités se dessiner dans un souci national.
Alors, c'est une chose effectivement qui émerge, qui est assez récente. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que la législation a évolué pour limiter le cumul des mandats aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être parlementaire, soit député, soit sénateur, et vous ne pouvez pas cumuler cette fonction nationale avec la présidence d'un exécutif. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être député ou sénateur et président d'une région et président d'un département ou maire d'une grande ville. Et traditionnellement, les mandats nationaux étaient plutôt les plus prisés, mais lors des dernières élections régionales, qu'est-ce que l'on a vu ? On a vu des candidats qui ont décidé de garder leur poste régional, garder la présidence d'une région, d'une grande région, plutôt que de garder un mandat parlementaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait le pari que la présidence d'une grande région pouvait leur donner davantage de visibilité, pouvait être un tremplin éventuellement pour une carrière nationale future. Parce que les régions ont effectivement aujourd'hui des compétences, des moyens qui permettent de se faire connaître et en partie au-delà de la région dont on a la responsabilité. J'en veux pour preuve Xavier Bertrand, par exemple, dans les Hauts-de-France, qui avait décidé d'abandonner son mandat parlementaire et de garder la présidence de la région. Et aujourd'hui, on voit que ce choix lui a permis de rester dans le jeu politique régional, mais aussi dans le jeu politique national. Et dans notre propre région, Laurent Wauquiez est aussi un candidat qui a fait ce choix-là et qui est sur le même type de stratégie, c'est-à-dire qu'il a misé sur le mandat régional pour en faire un levier de visibilité politique, personnelle. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça illustre ? Ça illustre que les régions deviennent, même si elles se sont encore des institutions récentes, j'insiste là-dessus, les régions deviennent des institutions, des collectivités qui deviennent de plus en plus visibles, qui octroient à leur président des moyens de plus en plus importants qui leur permettent de se distinguer, de se faire connaître, de faire des choix, de mener des stratégies, quoi. Et donc ça, c'est véritablement une évolution qui est importante. Et sans doute que le redécoupage des régions, et notamment le fait d'être à la tête de très grandes régions, permet à ces présidents d'être aujourd'hui d'autant plus visibles.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le résultat de ces régionales sera le lancement de la campagne des présidentielles de 2022 ?
Alors ça, c'est un jeu, souvent un jeu partagé par les hommes et les femmes politiques, et bien souvent aussi par les commentateurs, voire parfois par les journalistes, c'est d'essayer de faire dire beaucoup de choses à un scrutin. C'est pour cela que souvent, un scrutin local, on l'évoque comme un scrutin intermédiaire. C'est-à-dire que souvent, c'est un scrutin entre deux scrutins nationaux, entre deux élections présidentielles. Et donc, bien souvent, on essaie de donner plus d'importance ou plus de sens, parfois, qu'il ne peut en avoir, et essayer d'en tirer des fils pour anticiper ce que pourraient être les résultats nationaux. Donc, scientifiquement, on est dans l'incapacité de dire que sera telle ou telle conséquence sur un scrutin national. Pour autant, je vous concède que le soir des élections régionales, comme à chaque fois, commentateurs et hommes politiques en tireront des leçons nationales. C'est-à-dire que ben une victoire de la majorité d'une majorité sortante de droite dans notre région sera interprétée comme le signe d'une droite qui retrouve de la vigueur, etc. Et à l'inverse, une défaite sera interprétée comme une victoire pour la majorité présidentielle. Mais d'un résultat, on peut tirer de très grands nombres de conséquences qui sont parfois extrêmement contradictoires. Et on le voit sur les plateaux télévisés ou sur les plateaux des radios, c'est que les uns et les autres sont en mesure, le soir d'une élection, d'essayer de tirer des conséquences qui leur vont bien. Voilà. Donc c'est le petit jeu politique traditionnel auquel se donne lieu toute élection intermédiaire, c'est-à-dire tout scrutin local qui se situe entre deux élections. Mais il ne faut pas oublier qu'on désigne d'abord des gens qui vont être à la tête de collectivités qui gèrent des milliards d'euros pour des compétences du quotidien, des grandes infrastructures, etc.
Alors parlons des électeurs maintenant. Ces deux scrutins sont-ils boudés? Sont-ils finalement aimés des électeurs historiquement? Est-ce qu'on vote massivement ou le taux d'abstention est-il élevé lors de ces élections-là?
Alors, la première chose, premier constat général, c'est que l'abstention ne cesse de progresser. Ça ne cesse de progresser au fil des scrutins. Le contexte sanitaire actuel pourrait bien amplifier cette tendance de très long terme. Donc, attention, l'abstention n'est pas née avec la crise de la Covid, mais c'est bien une tendance de très long terme. Cette tendance, elle est encore plus manifeste, effectivement, dans certaines élections locales et tout particulièrement dans les élections régionales. Les élections régionales sont des élections qui, avec les élections européennes, sont les élections les plus boudées par les électeurs, parce que, sans doute, pour toute une série de facteurs, mais parce que, sans doute, ce sont des institutions récentes qui sont moins connues, moins ancrées dans le paysage. Donc ce sont des élections où, bien souvent, l'abstention fait une très très forte poussée. Les élections départementales connaissent aussi souvent de très très forts taux d'abstention quand elles ne sont pas couplées avec une autre élection. C'est-à-dire que si les élections départementales sont organisées toutes seules, bien souvent c'est très difficile de mobiliser les électeurs sur des scrutins qui peuvent apparaître techniques, qui peuvent apparaître opaques, etc. Donc il y a fort à parier que lors des prochaines élections, on n'échappe pas à ce constat. C'est la très très forte abstention, ce qui limite en même temps l'ancrage de ces élus qui se voient confier des responsabilités lourdes d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue financier, tout en ayant bien souvent une assise électorale fragile au regard de cette très très forte abstention qui risque là encore de ne pas déroger à la règle pour les prochains scrutins.
Alors, l'information est donnée. On rappelle ces dates, les 20 et 27 juin prochains, donc les élections départementales et régionales. Merci Stéphane Cadieu, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Jean Monnet de Saint-Étienne, d'avoir pris un peu de temps pour nous éclairer, nous expliquer un peu le principe de ces deux prochaines élections à venir, donc à la fin du mois de juin. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.